Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Camille Imbert, mais aussi Clément Salzar, Samuel Bernard et Anne-Sophie Pierry. Troisième temps de notre semaine consacré à la politique étrangère de la France et aux défis du futur président. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux hommes et aux femmes qui pratiquent le métier de diplomate. Moderniser l'outil diplomatique, c'est notre sujet ce matin.
La France est un pays qui, par sa place, sa diplomatie, sa défense, sa culture, les valeurs que nous portons, a une responsabilité particulière dans le règlement des grandes questions de la planète. La France a toujours considéré que son rôle était, au-delà de la défense de ses intérêts, d'être utile au monde, à la paix, au développement et à la préservation de la planète. Et la France doit toujours avoir cette espérance en son sein de pouvoir changer le monde. Tel est le fondement de la politique extérieure que je conduis depuis plus de 4 ans. Politique extérieure que vous contribuez à mettre en œuvre dans tous les pays où vous avez l'honneur de représenter la France. Vive la France. Vive la République.
François Hollande, qui s'adresse aux diplomates, c'était à la fin du mois d'août dernier, lors de la traditionnelle semaine des ambassadeurs qui a lieu chaque année à cette période. L'année 2016 a constitué un nouveau record pour les exportations d'armement français. Elles ont atteint 20 milliards d'euros contre 17 milliards en 2015 grâce à la vente des Rafales à l'Inde et au contrat géant de sous-marins passé avec l'Australie. Signe peut-être que la diplomatie économique tant vantée par Laurent Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères commence ou continue à faire ses preuves. L'ancien chef de la diplomatie française a véritablement relancé le soutien aux entreprises françaises dès son arrivée au Quai d'Orsay en 2012, alors que le déficit commercial de la France n'en finissait plus de se creuser. Un virage qui est intervenu alors que le métier de diplomate semble connaître une relative perte de prestige. La France possède toujours le troisième plus grand réseau diplomatique au monde, mais le rôle de négociateur, le cœur du métier de diplomate, tend à passer au second plan, derrière les tâches bureaucratiques et les impératifs de la représentation. Des évolutions que notre invité de ce matin a pu observer de près, puisque c'est en ethnographe qu'il a suivi la fabrication de la politique étrangère française. Bonjour Christian Lequen.
Bonjour Tiffaine de Roquimy.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, ancien directeur du Centre de Recherche Internationale, le CERI, et auteur de ce livre « Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français » paru en janvier aux éditions du CNRS. Un ouvrage pour lequel vous avez donc mené des dizaines d'entretiens entre 2014 et 2016 à Paris et dans différentes ambassades, notamment à Dakar et Varsovie. Et vous l'avez constaté, les diplomates travaillent aujourd'hui dans un environnement profondément différent. Qu'est-ce qui a changé, Christian Lequen ? Qu'est-ce qui a entraîné ce passage progressif chez les diplomates d'un rôle de médiateur, qui est leur rôle traditionnel, à un rôle plus bureaucratique, mot que vous employez à partir de l'anglais dans lequel, il faut le préciser, il n'y a pas le sous-entendu négatif qui lui est associé en français ?
Oui, c'est bureaucratique au sens de la sociologie des organisations, le terme qu'avait employé Michel Crozier quand il parlait du phénomène bureaucratique. Écoutez, je crois que ce qui a changé chez les diplomates, c'est d'abord le fait que on leur demande d'être des managers, on leur demande de gérer, on leur demande d'être très sensible à la question des budgets, des ressources humaines. C'était des choses qui traditionnellement n'étaient pas considérées dans l'administration diplomatique comme des tâches importantes ou des tâches nobles, comme on disait. Et aujourd'hui, ça le devient. Donc un ambassadeur de France, par exemple, il doit être aussi un chef d'équipe. Et puis, bien sûr, ce qui a changé, c'est l'environnement. C'est-à-dire que il n'y a plus aujourd'hui un monopole de l'État dans la représentation internationale. Il y a énormément d'autres acteurs, d'acteurs privés, d'acteurs sociaux, d'entreprises. Donc, il faut faire beaucoup de coordination avec ces autres acteurs. Et je pourrais même ajouter que cette concurrence existe aussi à l'intérieur de l'appareil d'État. Ce n'est pas seulement le ministère des Affaires étrangères qui aujourd'hui gère la relation extérieure de la France. Ce sont l'ensemble des ministères.
Est-ce que les diplomates ont mal vécu ce recul, d'une certaine façon, de leur attribution, ou est-ce que cette transformation du métier est bien vécue par les diplomates que vous avez pu rencontrer ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est assumé. Il y a eu une période, vraisemblablement les années 70, 80, d'ailleurs on le retrouve dans la littérature, où il y avait beaucoup, beaucoup d'interrogations sur la perte du monopole, notamment à l'intérieur de l'appareil d'État. Hein, la concurrence des autres ministères, par exemple ministère de l'économie et des finances pour les négociations commerciales ou les négociations financières. Aujourd'hui, je crois que c'est assumé, et justement les diplomates essaient de réfléchir à ce qu'est leur valeur ajoutée dans ce processus concurrentiel. Très souvent, lorsque vous leur posez la question, ils vous répondent que c'est finalement la technique de négociation, la maîtrise des techniques de négociation. C'est vrai que négocier, c'est un travail particulier qui nécessite un certain nombre de savoir-faire.
Vous avez voulu saisir, Christian Lequesne, les différentes manières de faire de la diplomatie. Et l'une de vos premières conclusions, c'est qu'une ambassade, ça tient d'abord à la personnalité de l'ambassadeur.
Alors, c'est un point très important, effectivement, dans la diplomatie. Il ne faut pas oublier que c'est un métier, et ça, c'est pas un élément de changement, c'est un élément de continuité, la recherche d'empathie, l'idée, finalement, de rapprocher des mondes séparés ou des personnes qui appartiennent à des entités séparées et de les faire dialoguer sans obligatoirement, d'ailleurs, que l'on aboutisse à une fusion, ça passe beaucoup par les qualités humaines. Oui, absolument. Et du reste, les diplomates croient beaucoup en cela. Ma collègue Adler Nissen, qui enseigne à l'université de Copenhague, a trouvé un mot. Elle dit les diplomates croient au relationnisme, c'est-à-dire qu'ils croient beaucoup au fait que les relations humaines sont aussi une garantie de l'efficacité de la politique étrangère. Et je crois que c'est juste, et vous le retrouvez dans la manière dont un ambassadeur, par exemple, est apprécié lorsque vous parlez avec ses interlocuteurs. On vous dit il est froid, il est distant, il est très sympathique, il a beaucoup d'empathie, il n'en a pas du tout, vous voyez. Mm-hmm. Donc tous ces éléments-là, effectivement, comptent dans ce métier.
Le travail de médiation d'un diplomate, cela revient principalement à assumer un rôle de représentation dans différents événements. Alors ça peut sembler être la partie superficielle du métier, mais en fait c'est pas comme cela que le voient les diplomates, qui accordent notamment une grande importance au dîner organisé à l'ambassade. Pour les ambassadeurs, écrivez-vous, le repas, c'est une pratique professionnelle obligatoire.
Oui, alors d'un côté, c'est ce que la société considère comme un peu futile, n'est-ce pas ? C'est vraiment ce qui est toujours caricaturé comme de la mondanité. C'est l'ambassadeur ou le diplomate Ferrero Rocher, hein, pour faire référence à une publicité célèbre. Et en même temps, puisque la diplomatie repose toujours sur l'empathie, repose toujours sur le fait de créer des bonnes relations, effectivement, le repas continue à jouer un rôle particulier. Alors, c'est assez épuisant, hein, pour un diplomate que de déjeuner, dîner tout le temps. Il faut pas croire que c'est une partie de plaisir, forcément, que d'avoir 3 ou 4 dîners chaque semaine. Mais c'est vécu comme une obligation professionnelle et comme un outil qui permet effectivement de faire avancer dans les relations que l'on tisse avec les autres. Mais bien entendu, ce qu'il ne faudrait pas, c'est limiter le métier du diplomate simplement à ça. Il y a énormément d'autres dimensions.
Mais dans le passé, ces repas ont pu avoir un rôle politique, et c'est en cela que c'est quelque chose d'assez important. Vous racontez des exemples de certains dîners qui ont pu être des signaux de défiance envoyés à un pouvoir autoritaire.
Oui, alors il y a un très bon exemple que je cite dans le livre, c'est les petits déjeuners que le président Mitterrand a demandé aux ambassadeurs de France à Sofia en Bulgarie et à Prague en Tchécoslovaquie d'organiser en 1989 autour des dissidents au régime communiste. Et dans les deux cas, c'était lors de visites officielles dans les pays. Donc clairement, là, c'était un signe de la diplomatie française à l'égard du régime tchécoslovaque et du régime bulgare sur « nous entendons bien vos dissidents et nous vous demandons de faire autre chose que de les mettre en prison ».
Ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, Christian Lequen, c'est le travail que vous avez fait sur les croyances subjectives des diplomates, des croyances que vous appelez les cartes mentales. Vous avez identifié deux grands courants. D'un côté, il y a les diplomates qui, dans la tradition gaullienne, promeuvent la singularité de la France et appellent à se démarquer des États-Unis. Et de l'autre, il y a ceux qui sont tentés par une affiliation au camp occidental dans le sillage des États-Unis, indépendantisme contre occidentalisme. On va commencer par les premiers. Quelle est plus précisément leur vision de la place de la France dans le monde? Comment s'est-elle construite et surtout, comment se traduit-elle concrètement dans la pratique diplomatique, Christian Lequen?
Alors, je commencerai par vous répondre, disant que c'est un peu la prise de risque de ce livre, mais après tout, la recherche consiste à prendre des risques, c'est-à-dire à essayer de définir des cartes mentales ou des représentations collectives et essayer un peu de les typer. Alors effectivement, dans les entretiens, parce que moi je travaille toujours beaucoup à partir du terrain et du discours des acteurs, j'étais très très frappé de voir en France une sorte de différence générationnelle entre les diplomates de 55 ans et plus, pour lesquels la démarcation des États-Unis, par exemple, était clairement un point important. C'est-à-dire que la politique étrangère de la France, ça devait être autre chose que la politique étrangère américaine, un peu par principe, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on pouvait enfoncer le clou de la différence avec les États-Unis, on le faisait.
Et puis, ce qui a pu, pardon de vous interrompre, porter préjudice à la diplomatie de la France. Il y a un diplomate qui vous dit, je crois, ça nous a finalement effectivement posé des problèmes, cette opposition un peu systématique.
Alors c'est un diplomate de la jeune génération que je mettrais dans l'autre catégorie des occidentalistes. Je ne dirais pas qu'ils sont pro-américains au sens où ils pensent que la diplomatie française doit coller absolument à la diplomatie américaine. Peut-être y a-t-il eu parmi eux un certain nombre de gens qui pensaient comme cela, notamment sur les affaires de défense. Mais c'est pas ça le camp occidentaliste. Le camp occidentaliste, c'est de dire finalement il faut arrêter de mettre en avant la spécificité de la France au sein du camp occidental, considérer que nous sommes un pays qui appartient à l'Ouest et aussi donner plus d'importance au rôle des alliances, en particulier au rôle de l'Alliance Atlantique. Alors évidemment, mon enquête se passait avant la présidence de Donald Trump. Ça serait intéressant justement de voir comment cela aujourd'hui considère la relation avec les États-Unis depuis que nous avons la nouvelle administration Trump à Washington.
Pour revenir à ce camp occidentaliste dont vous parlez, comment cette vision est apparue progressivement et qu'est-ce qu'elle implique? On sait que c'est avec Nicolas Sarkozy qu'on a commencé à parler ouvertement de la famille occidentale dans les notes du Quai d'Orsay.
Je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est l'évolution du débat politique. Vous avez raison, je crois qu'il y a une rupture après Jacques Chirac. Et dans le fond, il y a peut-être plus de différences en politique étrangère entre la présidence Sarkozy et la présidence Chirac qu'entre la présidence Hollande et la présidence Sarkozy. C'est l'époque, alors vous me direz Chirac qui avait déjà pensé, il n'a pas réussi, mais où on assume le retour dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. C'est une période où l'anti-américanisme de principe, qui a été quand même assez important dans la classe politique et intellectuelle française, est clairement en train de se réduire. Donc ça, c'est le premier élément. Le diplomate est sensible au contexte politique général. Le deuxième élément, c'est la formation et l'éducation. Dans le fond, les diplomates de l'ancienne génération, ils étaient formés à Sciences Po, institution à laquelle j'appartiens moi-même, mais c'était un Sciences Po où la plupart des enseignements étaient donnés par des hauts fonctionnaires français. C'était ça les années 60-70 à Sciences Po, et il y avait une reproduction du modèle dans les cours de politique étrangère. Je crois que tout ça a beaucoup évolué. Et dans le fond, l'internationalisation de Sciences Po a un effet indirect aussi sur les débats, la socialisation, si vous voulez, de ceux qui deviendront les praticiens de la politique étrangère. On a beaucoup plus d'étrangers qui enseignent, beaucoup plus de points de vue différents, des cours en anglais, etc. Tout ça, à mon avis, joue un rôle important dans ces évolutions.
La carte mentale occidentaliste, cette vision occidentaliste, a des similitudes avec ce qu'on appelle le néoconservatisme, mais pour autant, vous dites que les deux ne se confondent pas.
Non, parce que le néoconservatisme est vraiment axé sur une obsession qui est l'obsession morale, c'est-à-dire l'idée qu'il faut défendre les valeurs de la démocratie occidentale qui a vocation à s'étendre partout dans le monde et à le faire, le cas échéant, en utilisant les moyens militaires. Je pense qu'un certain nombre de diplomates que je fais entrer dans la catégorie des occidentalistes ont été tentés par cela, notamment au début des années 2000, mais je crois qu'ils sont toujours restés, qu'ils sont restés minoritaires, et la manière de penser aujourd'hui justement le rapport entre valeurs et outils militaires est assez différent de celui des années 2000, parce qu'il y a eu des expériences quand même qui ont amené à réfléchir, en particulier l'échec américain en Irak.
On va aborder, Christian Lequen, la question du rapport des diplomates aux politiques. Dans quelle mesure les diplomates s'adaptent-ils au changement d'orientation du gouvernement ? Vous dites que cela dépend finalement si le ministre des Affaires étrangères est réputé fort ou faible.
Oui, alors d'abord le ministre des Affaires étrangères dans la structure institutionnelle française, c'est une position qui n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que la politique étrangère, au même titre d'ailleurs que la politique de défense, ça reste quand même très largement deux politiques publiques supervisées par le président de la République, qui a de véritables pouvoirs. Hein. Donc c'est ce qu'a voulu De Gaulle dans la Constitution de 1958, et c'est ce qui s'est imposé ensuite dans la pratique constitutionnelle. Donc les diplomates sont très sensibles au type de relation qui s'établit entre le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Parfois, il y a une vraie complicité entre les deux. Parfois, ça n'est pas le cas. Ça peut être tendu. Donc, c'est un élément qui les amène effectivement à définir le ministre comme un ministre faible ou un ministre fort, et ça les amène à ne pas se comporter tout à fait de la même manière. J'ajouterai à ça d'autres éléments. C'est la capacité de ce ministre à défendre le budget dans les arbitrages budgétaires du gouvernement. C'est sa capacité aussi à réformer l'outil et à s'intéresser un peu à la mécanique. Je prends deux exemples. Roland Dumas était d'une certaine manière un ministre fort, car il avait une forte complicité avec François Mitterrand. En même temps, il ne s'est jamais beaucoup intéressé à l'administration diplomatique. Et ça jouait sur la légitimité qu'il avait auprès des diplomates. À l'inverse, Hubert Védrine et Alain Juppé ont été deux ministres qui se sont intéressés à l'outil, qui ont proposé des réformes. Et ça aussi, ça a joué sur leur légitimité auprès des diplomates de carrière.
Comment définiriez-vous aujourd'hui ce rapport entre le diplomate et le politique ? Vous dites qu'il y a quand même une méfiance mutuelle qui est assez constante.
Alors, c'est une situation, comme toujours, qui est paradoxale, parce que d'un côté, il y a une volonté de démarcation, c'est-à-dire que le diplomate se pense comme un expert, et je pense comme un expert rationnel. Et donc, il a une certaine méfiance à l'égard du politique qu'il considère trop impulsif, amené parfois à ne pas contrôler suffisamment son langage, à faire des gaffes. Les diplomates de carrière ont horreur des gaffes. Hein. D'ailleurs, j'ai recueilli ce témoignage d'un des secrétaires généraux qui disait « Vous savez, nous, notre métier, c'est de faire zéro gaffe. Hein. » Si c'est vrai, c'est assez terrible, parce que ne pas faire de gaffe, ça nécessite énormément de retenue dans une vie professionnelle qui est quand même
perpétuelle.
Longue. Voilà. Alors, ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, la carrière des diplomates à partir d'un certain niveau dépend quand même du pouvoir politique. C'est le président de la République qui nomme les ambassadeurs, et ça amène les diplomates choisir parfois, ce n'est pas le cas de tous, mais une forme d'affiliation partisane qui les suivra dans leur carrière.
France Culture, Culture Monde, Tiphaine de Roquigny.
Nous sommes toujours avec Christian Lequen pour parler du métier de diplomate. Alors Christian Lequen, contrairement au Royaume-Uni, qui a fait le choix de régionaliser ses ambassades, la France a voulu conserver l'universalité de son réseau, c'est-à-dire être présente partout. Comment expliquez-vous cette différence de choix et qu'est-ce que ça nous dit de la manière britannique et de la manière française de faire de la diplomatie finalement ?
Bah, je pense que les Britanniques répondraient qu'ils ont aussi une vocation universaliste, mais la contrainte de finances publiques qui pèse en France pèse encore bien davantage chez les Britanniques. C'est-à-dire que chez les Britanniques, quand on décide vraiment de faire des réductions de budget, on les fait beaucoup plus en profondeur qu'en France. Voilà. Alors, je pense qu'en France, on a préféré garder un certain nombre de postes, quitte à ce qu'il y ait maintenant des petits postes où finalement ça se limite à un ambassadeur et puis deux collaborateurs, mais on a préféré cela plutôt que la régionalisation. Alors c'est vrai que la régionalisation, ça n'offre pas que des avantages, parce que un ambassadeur, il est toujours accrédité et il vaut mieux qu'il vive là où il est accrédité. Si vous voulez, ça crée des tensions parfois lorsque, imaginez un ambassadeur qui est accrédité dans deux pays, mais il est en poste dans l'un des deux pays. Bon, l'autre pays a parfois du mal à accepter que ce n'est pas chez lui que l'ambassadeur est physiquement installé. Donc voilà la France. Puis il y a une symbolique derrière tout ça. C'est cette idée que là, ça c'est très fort, mais ça on rejoint là l'universalisme français et puis quand même ce que le gaullisme nous a laissé, c'est-à-dire cette idée que la France a une voix qui doit s'exprimer partout dans le monde, donc elle doit être présente physiquement par des postes diplomatiques.
Vous notez quelques exemples de colocalisation de l'ambassade de France avec celle d'autres pays européens. Il y a par exemple une colocalisation franco-allemande au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que cela permet, Christian Lequen ? Et on voit que le pays avec lequel la France a le plus de colocalisation d'ambassade, c'est l'Allemagne. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard.
Non, je pense qu'il y a une vraie confiance franco-allemande. C'est d'ailleurs très intéressant parce que la fascination des diplomates français pour leurs partenaires européens, ça reste assez largement la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, on est assez fasciné par la manière dont travaillent les Britanniques.
Pour quelle raison ?
Parce que les Britanniques, finalement, ressemblent aux Français. Je crois qu'il y a un peu de ça. Ils sont assez efficaces, ils font bien circuler leur information, etc. En revanche, la confiance, ce qui n'est pas la même chose, c'est clairement l'Allemagne. Et là, c'est vrai que c'est le résultat de l'institutionnalisation aussi des échanges franco-allemands, le traité de l'Élysée de 1963. Je cite toujours cet exemple parce que moi-même, j'ai occupé les emplois culturels, enfin j'ai occupé un emploi culturel à Prague. De temps en temps, j'allais voir l'ambassadeur, qui était un homme très très ouvert, et je lui disais un peu quels étaient mes collègues collaboration. Alors, je faisais pas mal de choses avec les Allemands. Quand je faisais quelque chose avec les Allemands, l'ambassadeur me disait « très bien, très bien ». Quand je faisais quelque chose avec les Britanniques, l'ambassadeur me disait « expliquez-moi un peu ce que vous faites avec les Britanniques ». Voilà. Pourquoi est-ce qu'il me répondait ainsi quand je lui présentais ce que je faisais avec les Allemands ? Parce qu'il savait que, dans le fond, politiquement, tout ça était couvert au plus haut niveau, hein, par le traité de l'Élysée. Donc il y a pas mal de choses qui se font effectivement d'échanges d'informations avec évidemment des limites. Et là, on rejoint votre sujet sur la diplomatie économique. Il va de soi que parfois la France et l'Allemagne sont en concurrence pour des contrats ou pour des investissements. Donc ça limite la possibilité là d'échanger vraiment des informations.
Eh bien, la diplomatie économique, on va y venir justement.
L'économie est un élément substantiel de notre rayonnement. Je dis souvent, qu'est-ce qui définit la France ? Nous sommes, en bon français, influential power, une puissance d'influence. Mais ce qui fait aussi notre influence, c'est notre force économique, notre puissance économique. Si nous voulons que le Quai d'Orsay, l'ensemble des administrations, serve l'influence de la France, il faut aussi que nous servions, et prioritairement, l'aspect économique.
Vous avez reconnu la voix de Laurent Fabius, qui était alors ministre des Affaires étrangères. C'était en janvier 2014. À son arrivée au Quai d'Orsay en 2012, Laurent Fabius a érigé la diplomatie économique au rang des priorités. Le ministère des Affaires étrangères a d'ailleurs récupéré en avril 2014 le secrétariat d'État au commerce extérieur, aux affaires européennes et au tourisme, qui dépendait auparavant de Bercy. Et une direction des entreprises et de l'économie internationale a été créée. On va accueillir une nouvelle invitée par téléphone pour en parler. Bonjour Laurence Badel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire des relations internationales contemporaines à l'Université Paris 1 et auteur de ce livre « Diplomatie et grands contrats, l'État français et les marchés extérieurs au XXe siècle ». C'était aux publications de la Sorbonne en 2010. Alors, il y a eu énormément de communication de la part du Quai d'Orsay sur cette diplomatie économique présentée comme un tournant dans un contexte de grandes difficultés du commerce extérieur de la France depuis plus d'une décennie. Sauf qu'en réalité, c'est loin d'être une nouveauté, Laurence Badel.
Oui, effectivement, la pratique même de diplomatie économique est une pratique séculaire, en fait, qui a commencé à se mettre en place à la fin du 19e siècle, dans un contexte de rivalité des grandes puissances occidentales sur un certain nombre de marchés. Mais Laurent Fabius, en arrivant au ministère en mai 2012, a effectivement placé la diplomatie économique au cœur de son action.
Il y a eu beaucoup de communication, mais alors quel changement concret sur le terrain ? Comment ce volontarisme s'est-il traduit concrètement et pour quel résultat ?
Alors, vous l'avez dit, d'abord, Laurent Fabius a remporté, je dirais, une victoire historique sur le ministère économique, bon, qui était Bercy à l'époque, puisque le portefeuille du commerce extérieur, en fait, avait échappé au Quai d'Orsay à la fin de la Première Guerre mondiale. Et... depuis, le ministère des Affaires étrangères donc, a essayé de remettre la main dessus. Et ce fut chose faite donc en 2014.
Au terme d'une vraie bataille.
Oui, avec qui a opposé donc, Laurent Fabius à Arnaud Montebourg. Alors, dans les faits, il faut quand même bien voir que depuis la fin des années 50, le Quai d'Orsay et le ministère de l'Économie et des Finances travaillaient quand même relativement bien, main dans la main. Et ont ensemble structuré ce qu'on a appelé la politique des grands contrats, qui a permis à la France de s'affirmer dans la compétition internationale, donc depuis le début des années 1960. Alors, en ce qui concerne la réforme conduite par Laurent Fabius, elle s'est incarnée effectivement, vous l'avez dit, par la récupération de ce portefeuille, par également l'affirmation de la mission entreprise qu'avait créée Hubert Védrine à la fin des années 90 au sein du ministère. Et Laurent Fabius l'a fait monter au statut de direction ministérielle. Mais je pense que la réforme de fond qu'il a conduite a été essentiellement la création de cette agence Business France qui est venue soutenir l'expansion internationale des petites et moyennes entreprises. Je crois que c'est vraiment le cœur de sa réforme.
Oui. Il faut expliquer pour les auditeurs, effectivement, Business France, qui a été créée le 1er janvier 2015 et qui est une entité née de la fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UbiFrance. Justement, alors quel était le but de ce nouveau label et plus de 2 ans après sa création, quel bilan on peut en tirer? Est-ce qu'on a réussi à davantage permettre, aider les petites et moyennes entreprises à exporter à l'étranger?
En fait, ce qu'il faut bien se représenter, c'est que la diplomatie économique française a toujours reposé sur une intervention très très forte de l'État. Il y avait une nébuleuse de petits organismes publics, parapublics, et en fait, la réforme de Laurent Fabius, la création de cette agence, est venue parachever un processus de rationalisation qui avait été engagé 20 ans plus tôt. Donc il y a eu des fusions successives depuis le milieu des années 1990 jusqu'à la création donc de cette agence Business France qui doit en fait essayer de faire monter en puissance les petites et moyennes entreprises françaises. Alors c'est quand même assez difficile de tirer un bilan moins de 2 ans après l'avènement de cette agence, mais l'idée malgré tout est de leur permettre de devenir plus concurrentiels, en particulier par rapport à leur grande concurrente allemande. Hein, puisque là, on a toujours un décalage assez important entre les PME françaises et les PME allemandes.
Ce qu'on constate quand même, Laurence Padel, c'est que le commerce extérieur français est toujours en aussi mauvais état.
Il est toujours, hélas, si je puis dire, oui, tout à fait, oui, toujours déficitaire. Alors, évidemment, on a une politique de communication qui est très, très centrée sur la valorisation des contrats, des grands contrats qui sont signés par la France avec un certain nombre d'États. Mais tout ce qui a trait au commerce courant, à l'exportation des produits manufacturés, est beaucoup plus déficitaire. Oui, absolument. Il y a vraiment un décalage, en fait.
Ce qui est demandé aux ambassadeurs, c'est de déployer une stratégie d'influence économique. Cela passe par quoi concrètement, Christian Lequesne? Parce qu'on a vu que ça pouvait poser aussi des problèmes, cette diplomatie économique volontariste. Vous donnez un exemple, elle a pu être mal interprétée en Chine, par exemple?
Ben, c'est-à-dire, justement, ce qu'on demande aux ambassadeurs, c'est de fixer un peu le cadre culturel, si vous voulez, de chacun des pays, parce qu'on ne fait pas des affaires de la même manière dans un pays A et dans un pays B, sans mauvais jeu de mots, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, l'ambassadeur, on lui demande justement de bien comprendre quels sont les réseaux de pouvoir, comment est perçue l'intervention de l'État, etc., dans les différents pays où il se trouve. Mais ce n'est pas l'ambassadeur lui-même qui va faire le contrat. Enfin, je veux dire, le contrat, il devra être fait par des hommes d'affaires. Dans le fond, l'ambassadeur, il reste un facilitateur sur le plan politique. Alors, oui, je cite cet exemple de la Chine qui m'a été fourni par un ancien ambassadeur de France à Pékin. Dans un pays comme la Chine, effectivement, il faut faire attention quand on intervient en tant qu'État pour faciliter le travail des entreprises. Il ne faut pas donner l'impression qu'on le fait parce que les produits sont de mauvaise qualité. Vous
ça
voyez,
a pu être vécu comme ça.
Exactement, alors que les Allemands ne le feraient pas parce que leurs produits sont de bonne qualité et que les entreprises seules pourraient les promouvoir. Toutes ces choses-là, toutes ces représentations, ces perceptions, effectivement, ce sont des choses que les diplomates peuvent apporter dans la négociation générale des contrats, aussi bien commerciaux que des contrats d'investissement.
On parlait de formation tout à l'heure, Christian Lequesne. Est-ce qu'il faut modifier cette formation des diplomates pour leur permettre d'avoir toutes les compétences requises pour justement aller de plus en plus dans la direction de cette diplomatie économique?
Oui, il faut comprendre comment fonctionne l'économie, et pas seulement la macroéconomie, mais aussi la microéconomie. C'est-à-dire, ça, c'est un point important. Dans un ministère où, dans le fond, historiquement, on n'était quand même pas très tournée vers les questions économiques. La partie noble du ministère, c'était les directions politiques, la direction politique. Voilà. Je crois que tout ça est en train de changer, mais a aussi évolué sous l'effet du régionalisme, en particulier de l'intégration européenne. Hein, moi, je suis très frappé de voir que ceux qui font l'intégration européenne, ce sont aussi ceux qui s'intéressent très souvent de près à la stratégie en matière de diplomatie économique. Il y a un lien entre l'un et l'autre. Je trouve que c'est un problème plus général de la formation des hauts fonctionnaires français. Il faut que les hauts fonctionnaires français comprennent quand même comment fonctionne le monde des entreprises.
Aux États-Unis, certains ambassadeurs sont des hommes d'affaires. Laurence Badel, est-ce que c'est vers cela qu'on devrait tendre ?
De toute façon, ce qui est tout à fait certain, c'est que dans les grandes multinationales françaises, il y a aujourd'hui des diplomates en activité qui assument des fonctions de vice-président pour les affaires institutionnelles, qui assument un rôle de diplomate d'entreprise, hein, que ce soit au sein de Thalès, de Carrefour, de Total. Vous avez, et ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté, hein, cela ne date pas de Laurent Fabius, vous avez des diplomates qui sont là, à titre de conseil politique, de facilitateur, ça c'était une chose tout à fait certaine. Pour étayer ce que disait Christian Lequesne, effectivement, le Quai d'Orsay, mais comme beaucoup d'autres ministères des Affaires étrangères, n'avait pas une forte culture économique. C'est peut-être davantage une tradition européenne que ce dédain qui a été longtemps manifesté par les diplomates pour les questions commerciales et économiques. Mais les choses changent. Les choses ont commencé à changer avant Laurent Fabius, mais il est certain que le coup de projecteur qu'il a donné favorise, accélère sans doute cette mutation. Au sein du Quai d'Orsay, il faut le rappeler, il y a effectivement des diplomates qui sont issus de la filière classique de l'École nationale d'administration, mais il y a aussi des diplomates qui sont issus des écoles commerciales. Hein, et je pense que dans la jeune génération, il y a une sensibilité véritablement accrue pour ces enjeux commerciaux, financiers, qui participent effectivement de la construction d'une véritable diplomatie d'influence.
À l'arrivée de Laurent Fabius en 2012, on a redéployé les agents des zones africaines et européennes, traditionnellement nombreux, vers les pays du G20, et notamment les pays à forte croissance, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud ou encore l'Inde. L'objectif qui est affiché, c'est de passer donc de 13% des effectifs en 2012 dans les pays du G20 à 25% en 2025. Laurent Fabius a notamment déclaré qu'il voulait que les effectifs en Chine dépassent les effectifs aux États-Unis. Il était temps de faire cette réforme, Laurence Badel ?
Tout à fait, puisque les pays émergents d'Asie sont des clients, potentiels, enfin des clients d'ailleurs de longue date pour les entreprises françaises. Donc ça, c'est un processus là encore qui a été accéléré. Hein, la rationalisation du réseau diplomatique a été engagée à la fin des années 90, hein, encore par Hubert Védrine. On s'est dit qu'il fallait réduire la présence française en Europe et la redéployer sur les marchés extra-européens. Donc ça, on est vraiment dans le cadre d'un processus de longue durée. C'est tout à fait certain. La Chine est évidemment un des très grands marchés, le marché du futur. Et il est évident que la présence diplomatique française doit venir accompagner les investissements des entreprises françaises sur son marché. Oui.
Je le disais en introduction, les ventes d'armement françaises se portent très bien. Les exportations atteignaient 8,2 milliards d'euros en 2014, puis ont bondi à 17 milliards d'euros en 2015. Désormais, on est à 20 milliards d'euros pour 2016. Donc c'est un succès qu'on peut attribuer en partie évidemment à la diplomatie économique. Mais on a beaucoup critiqué la vente de Rafale au Qatar ou d'armement à l'Arabie Saoudite au nom des valeurs de la France. Comment concilier, selon vous, Laurence Badel, la diplomatie économique avec cette question des valeurs ?
Bon, je dirais que c'est une question que l'historien évidemment aborde avec une grande modération, puisque je dirais que la conjugaison du discours sur les valeurs et une politique beaucoup plus pragmatique est un phénomène, là encore, tout à fait séculaire. Alors évidemment, dans le cas de la France, c'est peut-être plus particulier, puisque la France a un message universel qui porte haut et fort un certain nombre de valeurs libérales et démocratiques, mais ça ne l'a jamais empêché de faire des affaires, y compris en pleine guerre froide, avec, par exemple, l'Union soviétique. Donc, je dirais que les reproches récurrents qui peuvent être adressés à la France sont des reproches que l'on peut adresser à l'ensemble des États sur la planète, et des reproches qui doivent être évidemment tout à fait valorisés. Alors ensuite, effectivement, on peut critiquer une certaine schizophrénie de la politique extérieure française, mais encore une fois, nos concurrents ne sont pas en reste dans ce cadre-là. Oui.
Est-ce que c'est une problématique importante chez les diplomates que vous avez rencontrés, Christian Lequen, cette notion de cohérence entre les valeurs prônées, parfois de façon très forte, et la réalité des contrats passés avec des pays autoritaires ?
Oui, certainement, et en même temps, le diplomate réagit de façon extrêmement pragmatique face à cela. C'est-à-dire que le diplomate, il défend d'abord des intérêts, mais il sait aussi qu'il ne peut pas afficher simplement une politique basée sur les intérêts, parce que il existe aujourd'hui un agenda normatif international autour de la question du bien du mal, des droits de l'homme, etc. Et il de la guerre juste, la guerre qui est injuste, etc., etc. Et il sait, le diplomate, qu'il n'échappe pas à l'opinion publique. Hein. D'ailleurs, ça c'est un point important. Du coup, ce professionnel qui était habitué à travailler surtout avec l'extérieur, il est obligé aussi de travailler de plus en plus avec l'intérieur, c'est-à-dire avec la réaction de sa propre société. Hein, je crois que ça, c'est une évolution du métier du diplomate, que d'être aussi tributaire davantage de la politique intérieure que dans le passé.
Et notamment avec les réseaux sociaux où le diplomate peut être interpellé. On a vu aussi les réseaux sociaux qui transformaient ses usages. Le ministre pakistanais de la Défense qui menace Israël d'une riposte nucléaire, sans parler bien sûr du président Trump et son usage compulsif du réseau social. Comment les diplomates s'adaptent à cette nouvelle donne sur le terrain ? Est-ce que c'est une question que vous avez abordée avec eux ?
Oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs toute une partie aujourd'hui de la littérature sur les études diplomatiques qui s'intéresse à ce qu'on appelle la diplomatie digitale ou l'e-diplomatie. Concrètement, les diplomates s'y sont mis, c'est-à-dire que ils utilisent aujourd'hui les blogs, Twitter, Instagram, etc. Et nous avons, par exemple, des ambassadeurs de France qui sont des grands utilisateurs des tweets. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que, du coup, ça personnalise aussi la communication. Alors que ce métier était un métier qui se définissait beaucoup par la fonction, aujourd'hui c'est un métier qui se définit aussi, en raison de l'existence des médias sociaux, par la personnalité propre, si vous voulez, du titulaire de l'ambassade. D'ailleurs, ces tweets ne sont pas toujours des tweets avec, comme légende, ambassade de France ou institut, mais le nom et le prénom de l'ambassadeur qui les envoie.
Merci beaucoup Laurence Badel, professeure d'histoire des relations internationales contemporaines à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Le rayonnement de la France, c'est sa capacité aussi de promouvoir la culture. En ces temps où l'obscurantisme menace, où nous devons défendre la diversité et le dialogue des civilisations, c'est finalement notre premier devoir. La victoire sur la barbarie ne sera pas seulement militaire ou politique, elle sera aussi morale, spirituelle, culturelle.
On va accueillir une nouvelle invitée par téléphone, c'est Sophie Claudel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'École nationale supérieure d'art de Dijon, co-auteur avec Alain Faure et Alexis Tadier d'un rapport de Terra Nova intitulé « La diplomatie culturelle face aux défis contemporains ». C'était il y a quelques semaines. Il n'y a pas de diplomatie économique sans diplomatie culturelle. Et en France, cette diplomatie s'appuie sur un réseau de 96 instituts français et plus de 800 alliances françaises. Un réseau pour les instituts français qui est directement piloté par le Quai d'Orsay. C'est une spécificité française. Quel problème cela pose, selon vous, Sophie Claudel? Quelles sont les conséquences de cette centralisation de la politique culturelle extérieure?
À mon avis, la conséquence principale, c'est qu'en fait, on se retrouve un peu trop facilement à organiser, par exemple, des types d'événements, que ce soit des festivals avec des artistes divers et variés, qui sont exactement les mêmes dans 10, 20 pays différents. Donc ça veut dire une prise en considération des interlocuteurs qu'on a sur place, qui passe en deuxième plan. Et ça me semble être le principal problème quand on a une vision trop centralisée de la diplomatie culturelle.
Oui, ça entraîne un risque d'uniformisation et ça exacerbe peut-être
Absolument.
Cette tendance à un certain ethnocentrisme, à un postulat d'une supériorité du modèle culturel français. C'est le problème que vous posez?
Oui, absolument. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, on est encore un peu trop dans ce travers-là.
À la fin des années 2000, on avait discuté d'une réforme pour rendre ce réseau d'instituts indépendants, comme peut l'être le British Council ou le Goethe Institute, par exemple. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'une réforme nécessaire?
Alors, on est effectivement, à mon avis, passé à côté d'une réforme nécessaire, c'est certain. Et le principal problème, en fait, c'est que, enfin, problème, disons, en tout cas, c'est un constat, c'est que le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, ne souhaitera jamais, ça me paraît assez évident, lâcher, disons, les ressources humaines que représente ce réseau, puisque je crois que c'est 4000 ou 5000 agents. Donc, c'est évident que c'est
30% des effectifs du Quai d'Orsay.
Exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même vraiment une part importante de leurs ressources humaines et également, évidemment, des financements qui vont avec. Donc, je pense que le Quai d'Orsay ne sera jamais dans une position de souhaiter que le départ, disons, de cette diplomatie culturelle et des moyens qui vont avec.
Plus largement, vous dites qu'il manque à notre politique culturelle extérieure une vision qui ne soit pas seulement la défense de la langue française. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui, Sophie Claudel, pour relancer cette diplomatie culturelle?
Avant tout, à vrai dire, un postulat de départ qui soit un petit peu différent. C'est-à-dire que je pense actuellement, et quand on a écrit cette note avec Alexis Tadier et Alain Faure, on avait vraiment ça en tête. Pour avoir à nous trois exercé dans une douzaine de pays très différents, on a tous remarqué à quel point le postulat de départ qui était une défense de la culture française, donc une posture qui suppose que la culture française serait à défendre, qui est un petit peu problématique. J'ai été très sensible tout à l'heure à ce que disait Monsieur Le Ken quand il parlait de la recherche de l'empathie. Et des qualités humaines qui sont absolument nécessaires chez les diplomates. Et effectivement, je pense que l'empathie, c'est une des méthodes de travail essentielles quand on est diplomate culturel à l'étranger. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir cette capacité, aussi bien avec ses propres connaissances de la culture française, enfin de la culture française dans sa diversité, être capable d'entendre les besoins sur place, et puis de s'y adapter, donc d'être totalement à l'opposé de quelque chose qui supposerait qu'il n'y ait qu'un seul modèle culturel français, qu'il y ait un pool de quelques artistes et qu'on diffuserait absolument partout dans le monde. Donc ça, c'est déjà un postulat de départ qu'il faudrait réussir à éliminer.
Je vais faire intervenir simplement Christian Le Ken, qui a acquiescé des deux mains à vos propos.
Ah oui, je partage à 100% ce que dit Madame Claudel. Je crois que justement la diplomatie culturelle réussie, c'est celle qui donne l'impression de ne pas asséner, et à la limite même qui donne l'impression de ne pas vouloir véhiculer un modèle préétabli. C'est la raison pour laquelle aussi je crois que la diplomatie culturelle, pour qu'elle soit efficace, elle ne doit pas se faire uniquement dans les enceintes des ambassades et des instituts français. Elle doit se faire de plus en plus en dehors de leurs murs, en choisissant des partenariats et des lieux qui correspondent vraiment à la réalité du pays. Parce que sinon le risque, j'ai pu le mesurer aussi aussi dans mes expériences, c'est que vous ne réunissez autour de vous que les francophones de service, si je puis dire, qui sont souvent des gens très très estimables, mais qui ne représentent pas obligatoirement l'ensemble du pays.
Vous êtes d'accord, Sophie Claudel, les instituts sont pas les outils pertinents de la promotion de la culture française à l'étranger?
Bon, alors ça dépend évidemment des zones. Je pense effectivement, pour compléter ce qu'il dit Monsieur Le Cannes, mais je suis effectivement tout à fait d'accord avec lui. Je pense, par exemple sur le continent africain, bon, on sait aussi qu'il y a par moment dans certaines zones très peu de structures culturelles. Donc là, on peut éventuellement comprendre que les centres culturels français ou les instituts français soient un lieu culturel majeur. Mais indépendamment de ces zones-là, qui sont quand même un petit peu particulières, en particulier par exemple dans les pays occidentaux, mais pas uniquement, hein, effectivement, organiser des événements qui finissent par être franco-français parce que au nom du rayonnement de la culture française, qui est quand même là encore un terme un petit peu discutable, et le faire en plus dans les structures françaises sur place, on finit par être dans un total contresens.
Bon, la politique culturelle extérieure souffre aussi d'un manque de moyens, il faut le dire. Entre 2011 et 2015, le budget que le ministère des Affaires étrangères a consacré à sa diplomatie culturelle a baissé de 20%, et les fermetures d'instituts français à l'étranger se sont multipliées ces dernières années. On peut citer Amsterdam, Venise, Porto et d'autres. Face à cette diminution des moyens, que préconisez-vous, Sophie Claudel? Est-ce qu'il faudrait mutualiser les moyens en partageant, par exemple, certains instituts culturels avec d'autres pays européens?
Oui, c'est une option qui paraîtrait souhaitable. Alors, d'un point de vue financier, oui, bien sûr, mais je dirais même d'un point de vue philosophique. On est en fait dans une situation actuellement où il semble qu'on craigne un peu trop que la culture française soit poreuse. Il faut souhaiter qu'elle soit très poreuse, cette culture. Donc ça veut dire aussi que s'il y avait tout à coup l'émergence de centres culturels européens dans certaines zones du monde qui défendraient à la fois la culture française et puis d'autres cultures européennes, il est évident que cette porosité des cultures ne ferait qu'enrichir la culture française, mais aussi la vision que d'autres peuvent avoir de la culture française. Donc ce serait en fait absolument bénéfique et aussi évidemment financièrement.
Vous voulez réagir, Christian Le Cannes? Cette diminution du budget consacré à la diplomatie culturelle, elle s'inscrit évidemment dans une diminution du budget global du Quai d'Orsay, c'est moins de 1% du PIB?
Oui, bon, toute diminution de budget est effectivement un problème, mais là où je voudrais réagir, c'est sur l'idée d'aller vers des centres culturels européens. Je pense que c'est un projet vraiment qu'il faudrait essayer de développer. Hélas, si je comprends bien ce que me disent les praticiens, on tombe après sur des problèmes d'organisation très pratiques. Par exemple, les tutelles. Vous voyez, un responsable culturel allemand, c'est pas l'ambassadeur d'Allemagne, hein, qui est son patron sur place. C'est le directeur du Goethe-Institut à Munich, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc il faut réussir à concilier tout ça. Je crois que c'est pas très facile en pratique. Mais le projet, à mon avis, intellectuellement, est un projet qu'il faut défendre.
Merci beaucoup Sophie Claudel, médiatrice déléguée du programme Nouveau Commanditaire de la Fondation de France. Merci beaucoup à vous Christian Le Cannes d'avoir été avec nous ce matin. C'est l'heure du Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Tiffaine.
Un article publié dans le dernier numéro de The Nation, un grand hebdomadaire intellectuel de gauche américain, a retenu votre attention.
Oui, parce qu'il est signé Michael Walzer, un philosophe de 82 ans qui réfléchit dans une optique de critique sociale sur toutes sortes de sujets. Cela va d'événements historiques comme la création de l'esprit partisan par les puritains anglais à nos défis contemporains les plus actuels. Sa pensée n'est nullement éthérée, mais capable au contraire d'indiquer des directions réalistes et morales à la fois aux décideurs politiques. Michael Walzer, qui s'est toujours situé du côté de la gauche social-démocrate, ne fut jamais l'esclave de ses engagements, et ce n'est pas par hasard s'il a été associé durant un demi-siècle à la direction éditoriale de la revue Dissent, hostile à toute forme d'autoritarisme, même exercé au nom d'un pouvoir de gauche et donc anticommuniste. Walzer a tenté ces dernières années, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, de poser les fondements éthiques d'une politique étrangère démocratique. Il a tenté de poser les questions d'une guerre juste et a débattu de la question des moyens de légitime de la mener, réfléchissant en particulier sur l'usage des drones. Dernièrement, une polémique l'a opposé à ses amis de la revue Dissent suite à un article dans lequel il accusait la gauche intellectuelle américaine d'aveuglement et de complaisance envers l'islamisme radical. C'est un esprit libre qui a tenté de jeter des ponts à l'époque de la critique communautarienne des thèses libérales de John Rawls entre le formalisme de ces derniers et le risque du particularisme relativiste et conservateur existant du côté communautarien. D'un côté, Rawls, la société repose sur un pacte initial dans lequel les contractants sont censés tout ignorer de leur position sociale effective, c'est bien artificiel. De l'autre, communautarien donc, le lien politique est fondé sur une histoire particulière qui fait l'impasse, en fait, sur la question de la justice en son propre sein. Alors cette affaire a fait couler beaucoup d'encre sur les pages des revues universitaires, elle est aujourd'hui derrière nous, mais c'est à partir des thèses qu'il a formulées à l'époque, dans les années 90 donc, que Michael Walzer, retraité de la prestigieuse université de Princeton, continue à penser le monde contemporain.
Et il vient de publier une critique d'un livre récemment paru sur lequel vous voudriez à votre tour attirer l'attention, Brice. The Invention of Humanity, rien que ça, publié par un historien néerlandais.
Oui, l'humanité tout entière. Oui, Walzer est dithyrambique à propos de ce livre dû à l'érudition de Sip Sturman. Sturman fait l'archéologie de ce qu'il qualifie de tournant anthropologique, à savoir la révolution intellectuelle que tous les hommes en sont venus à se penser comme appartenant à la même humanité. Cela nous paraît évident à nous aujourd'hui, mais voilà, c'est le fruit d'une longue histoire. Comme les ethnologues l'ont relevé, les membres de nombreuses sociétés primitives se désignent eux-mêmes comme les hommes, ce qui implique que les autres ne sont pas conçus comme tels. Et dans bien des sociétés modernes, et il n'y a pas si longtemps, le racisme déniait à certaines populations leur dignité humaine. Par quel chemin sont passées les différentes cultures pour en arriver à notre actuelle unanimité? Nous sommes tous de la même espèce. Deux noms sont à l'origine de cette révolution conceptuelle. Le grec Hérodote, le père de l'histoire, qui enquête sur les voisins au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et le chinois Sima Qian, auteur du premier livre d'histoire complet écrit au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ces deux personnages furent tous deux de grands voyageurs, notant scrupuleusement des descriptions, des mœurs, des institutions qu'ils croisaient en chemin, ils parvinrent à la même conclusion. Comme ces supposés barbares, malgré leurs différences, nous ressemblent. Et Sima Qian en particulier remarqua combien le mode de vie des nomades vivant au nord de la Grande Muraille était rationnel et bien adapté à leur environnement. Ensuite, on saute aux franciscains et dominicains envoyés par leurs ordres pour convertir le nouveau monde au XVIe siècle. Certains d'entre eux se métamorphosent sur place en anthropologues. Bernardino de Sahagún avait déjà été mis en lumière par le regretté Tsevan Todorov, ce moine franciscain envoyé au Mexique en 1529 à 29 ans pour y enseigner le latin au fils de la noblesse indigène au collège de Santa Cruz de Tlatelolco, apprend la langue des Aztèques, il collectionne les discours Moro Nahuas, il travaille à une histoire de la conquête espagnole vue par les indigènes. Rédigeant une histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, il donne voix aux colonisés, comme on dirait aujourd'hui. Le tournant anthropologique se poursuit avec la naissance de l'anthropologie universitaire. Sip Sturman étudie en particulier la critique du racisme scientifique dont les nazis n'avaient pas le monopole. Par Franz Boas, le père fondateur de l'anthropologie américaine, et Ashley Montagu, anthropologue britannique. Ce dernier publie, en pleine guerre avec le Reich hitlérien, un livre remarquable intitulé « Le mythe le plus dangereux, l'idée erronée de race ». Michael Walzer tombe en désaccord avec Sturman sur un point. L'idée d'humanité commune n'est pas une construction théorique élaborée au fil d'un développement intellectuel dont il suit le cours. Pour lui, il ne s'agit pas d'une invention mais d'une découverte pour Michael Walzer. Donc elle procède de l'observation honnête de ces autres dont on découvre, lorsqu'on fait preuve d'honnêteté intellectuelle, qu'ils ne diffèrent de nous que de manière superficielle.
Merci Brice, c'est la fin de cette émission. Un grand merci Christian Lequen de nous avoir accompagnés toute cette matinée.
Merci à vous.
Professeur à Sciences Po Paris, je le rappelle, auteur d'Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques du diplomate français. Et à noter que vous participerez à une conférence le 24 avril prochain sur ces sujets à Beaubourg, à Paris. Merci également à toute l'équipe de Culture Monde, Camille Imbert, Clément Salzar, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, à la réalisation Alexandre Fougeron, à la technique Pascal Baudin.